C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle du rebranding compliqué du slip français et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chelil.
Ouais, salut Thibaut, ça va? Tu vas bien ce matin?
Très bien, très bien. Alors, tu es à distance, hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous avez la chance de voir l'intérieur du salon de monsieur Adjan Chelil.
Bien sûr, vous êtes à la maison, là.
Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh ben, ça explique peut-être un petit peu ce son différent de d'habitude. Je le disais, on va donc parler de ce rebranding hein, du slip français. C'est un épisode qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais que vous nous avez très largement demandé. C'était sur Twitter, c'était sur nos DM, c'était en live Twitch. Vous nous avez dit, pourquoi vous parleriez pas de ce rebranding du slip français? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un buzz? Est-ce que c'est un bad buzz? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Etc. Donc, ben on a fait notre petite enquête, on va dire investigation. Et il se trouve qu'ici, chez Super Daily, on a le bras long. On les a appelés directement, le slip français. On a appelé Anne, qu'on salue d'ailleurs, hein, qui est la social media manager du slip français, pour avoir eh bien, ses retours. Donc, on a pas mal d'infos intéressantes ce matin pour vous.
Ouais, on s'est pas gêné, on s'est dit autant aller directement à la source. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce rebranding. C'est l'occasion des 10 années, hein, des 10 ans, l'anniversaire des 10 années d'existence de la marque du slip français. Et donc, comme vous savez, hein, ils ont décidé de changer un peu, de changer leur logo, de revoir un petit peu leur identité visuelle. On va voir aussi qu'il y a des choses qui changent même dans la ligne, hein, de leurs vêtements, que c'est vraiment un changement qui est un peu plus global, hein, même si c'est pas non plus une fracture par rapport à ce qui se faisait avant. On va rentrer dans le détail après. Et puis on va essayer de comprendre dans cet épisode pourquoi ils ont changé de logo, ce que ça implique dans leur communication, et puis même au niveau de la DA, à quoi ça ressemble. Et on va aussi aller un peu plus loin pour voir un peu au niveau d'autres marques, parce qu'on a essayé d'aller voir s'il y avait d'autres marques comme ça, un peu des love brands qui osaient changer complètement de logo.
Exactement. Le branding d'une société, eh bien, c'est son identité, hein, son nom, son logo, sa charte graphique, tous les trucs sur quoi la marque s'appuie chaque jour pour s'exprimer. Et si l'identité d'une marque, elle doit durer dans le temps, il est parfois nécessaire de procéder à un rafraîchissement. Et ce rebranding, hein, on appelle ça un rebranding, eh bien, ça permet notamment, parfois de remettre une marque au goût du jour, de revaloriser son image ou plus globalement de nous donner un nouveau départ. Et dans le cas du slip français, après 10 ans de bons et loyaux services, eh bien, le fameux slip a décidé de rebrander totalement sa marque. Fini le slip, fini la cocarde bleu, blanc, rouge, place à une nouvelle identité, une identité à parti pris qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ces derniers jours.
Ouais, c'est clair que ça a beaucoup fait réagir. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très étonnés hein, de voir le slip français comme ça changer de logo. C'est un petit peu le cas quand on est face à des love brands, à des marques avec des utilisateurs qui sont très engagés, qui se reconnaissent beaucoup dans la marque. C'est là qu'on a souvent ce côté, effectivement, on sent. Quand on est fan, on se dit non, mais c'est le logo que moi j'aimais, c'est celui que j'achetais, que je voulais voir sur mes vêtements. Là, vous me chamboulez tout là quand vous changez un logo comme ça. Donc, il y a un travail, il y a du contexte peut-être à donner, il y a de la pédagogie à faire. On va voir que il y a certaines marques qui ont parfois agi un peu différemment face à justement un changement de logo comme ça.
Ouais, et là c'est un rebranding compliqué hein, parce qu'après l'annonce de ce nouveau rebranding, il y a eu une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Alors j'en fais quelques-unes sur Twitter. Le sujet déchaîne littéralement les passions. Hein. On dénonce les choix de couleurs. On y voit un complot wokiste carrément. On regrette l'absence du bleu-blanc-rouge hein, sur ce nouveau rebranding. Ah. Certains parlent d'un buzz organisé, une sorte de fausse annonce, hein, comme avait pu le faire Buffalo Grill par exemple. D'autres imaginent une stratégie pour effacer l'histoire de la blackface hein, qui date maintenant d'il y a 2 ans. Bref, ça tourne quand même au vinaigre. Par exemple, sur le post Facebook de la marque hein, qui annonce ce rebranding, là aussi on trouve des nombreux commentaires hein, qui viennent vraiment pourrir l'ambiance d'une annonce de marque qui avait pourtant été mûrement travaillée et bien bossée. Il faut quand même le dire, la marque, elle avait bossé cette annonce. Hein.
Ouais, elle avait bossé cette annonce. On a vu Guillaume Gibault, le boss de la marque, prendre la parole dans différents coins de presse, à différents endroits. On l'a retrouvé, expliquer, hein, essayer de mettre un peu de pédagogie autour de tout ça. Pourquoi ils ont changé de logo. Il nous explique que d'ailleurs, dans toutes ces interviews, voilà, que ça fait 10 ans que la marque, elle s'est imposée, qu'elle a bien bossé et qu'elle est le leader du fabriqué en France, du fabriqué local. Mais que à un moment donné, c'est dans l'ADN aussi du slip français. C'est dans son ADN. Le changement, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en eux, ce côté le slip français, c'est un côté un peu start-up, un peu alors start-up pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais entrepreneurial, je dirais, et du coup bah ça fait partie de leur ADN d'essayer d'aller de l'avant, de se renouveler, et bah pour lui c'est exactement ça, le changement il était important car à un moment donné ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus et qu'ils ont envie de se redonner un peu d'air, un peu de nouveauté.
Ouais, là-dessus, dans mes échanges avec Anne, avec les équipes du slip français, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils n'ont rien improvisé, hein, que c'est-il. Alors déjà, on peut vous le dire, ce n'est pas un buzz organisé, hein, c'est une vraie annonce de marque. La marque, le slip français, ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent à la refonte de leur plateforme de marque. C'est un gros sujet, ils y ont passé beaucoup de temps, ils se sont vraiment investis là-dessus. Et d'une, c'est pas une histoire de buzz organisé, et de deux, c'est certainement pas une histoire aussi d'invalider ou de remettre à zéro une marque qui aurait été un petit peu écornée éventuellement par notamment cette histoire de la blackface. Et ce qui m'explique, c'est qu'ils avaient commencé ce travail sur la plateforme de marque avant même qu'il y ait un bug il y a deux ans en arrière avec, rappelons-le, une collaboratrice qui avait eu dans sa vie privée des propos et des comportements qu'elle a diffusé sur Instagram qui étaient inadmissibles. Donc, ils ont vraiment travaillé en amont, 2 ans qu'ils y sont, et puis ils ont travaillé une vraie annonce, parce que ça, c'est crucial, hein, quand on fait un rebranding, de savoir bien l'annoncer. Et pour annoncer cette nouvelle orientation, ils ont fait les choses avec intelligence, de mon point de vue, hein. Premièrement, ils ont fait une vidéo pour expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, avec un angle que je trouve intéressant, hein, c'est « Le slip change tout, sauf l'essentiel ». On vous met la vidéo en note de cet épisode. Et dans cette vidéo explicative, ils réaffirme hein, réellement les engagements de la marque pour le fabriquer en France, pour l'innovation, comme tu l'as dit. Et puis en même temps, ils expliquent quels ont été les choix qui ont mené à cette refonte de logo. Pourquoi le logo, quand vous allez le regarder, vous verrez, il y a un cœur, il y a un petit triangle, etc. Et ils expliquent le choix de ces formes. Hein.
Ouais, ça a bien changé. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail.
Alors là, on est dans un podcast, donc c'est pas forcément visuel. On peut l'expliquer rapidement, ce logo, hein.
Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui ont changé d'une manière globale. Les détails tricolores, de toute façon, qu'il y avait effectivement, dont tu parlais, qui étaient sur la cocarde, le slip français, ont un peu disparu globalement. C'est-à-dire que, en tout cas, maintenant, vont être plus épurés, plus fins, même dans la ligne et les vêtements que le slip français va proposer. C'est un peu global. Il y a un petit retrait de ce côté tricolore qui était beaucoup beaucoup mis en avant sur tous leurs vêtements avant, qui maintenant va pas disparaître mais sera un petit peu plus discret, un petit peu plus épuré, et le logo va un peu dans ce sens là aussi avec quelque chose d'un peu plus épuré. On perd donc le côté très bleu blanc rouge, mais on retrouve maintenant une nouvelle couleur qui est le vert, qui va venir un petit peu plutôt parler de la naturalité, qui va parler de l'ADN de marque dans le sens des engagements, l'environnement, engagement de marque, politique RSE, etc. Et c'était important pour le slip français de mettre cette couleur au milieu du logo. Et puis, niveau forme, moi, je trouve que, il y a une belle évolution. Aujourd'hui, c'est un logo qui était avant, c'était un logo tout rond, cocarde, avec le slip français Made in France de manière arrondie en plus autour du logo. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un logo qui montre que la marque, elle a pris en maturité. C'est comme si c'était une marque adolescente qui était devenue adulte. En fait, on avait un logo qui était très adolescent avant, qui était un peu pas enfantin, mais voilà, c'était très bold, très gros. Là, on a une écriture en dessous. Maintenant, le slip français seulement qui est écrit en gras, un petit peu épais, ouais, sous le logo. Et puis le logo, c'est simple. C'est un cœur bleu avec un petit triangle vert à l'intérieur et tout ça sur un gros rond rouge. Donc, on a quelque chose de plus simple, très graphique aussi, très dans l'air du temps, ce côté un petit peu forme graphique.
Alors forcément, c'est surprenant. Quand on tombe dessus, il n'y a pas de doute, c'est un peu surprenant aussi. Faut aussi dire que le précédent logo du slip français était un peu devenu le logo du Made in France, hein, au global. Ça, c'est ce que m'expliquaient les équipes du slip français, c'est que le slip français, c'est vraiment une marque pionnière du renouveau du Made in France, hein, du Made in France. Et ils ont fait, et ils contribuent à faire énormément pour cette cause choses-là. Mais petit à petit, bien, il y a pas mal de marques Made in France qui se sont largement inspirées aussi des codes graphiques qu'avait proposé le slip français. Hein, cette cocarde, ce bleu, blanc, rouge,
bien
côté
sûr, on l'a vu.
Très fondant.
On l'a vu partout.
On l'a vu partout. Combien de marques Made in France aujourd'hui utilisent la cocarde bleu, blanc, rouge? J'en ai quelques-unes en tête. Hein. La chaussette française, le biberon français, le coureur du dimanche, etc. Toutes ces marques, elles se sont nettement inspirées dans leur identité du slip français. Donc, ils avaient aussi sans doute besoin de renouveau là-dessus et de reprendre une longueur d'avance. Hier, je ne sais pas si tu as vu, Adjan, il y a Guillaume Gibault, donc le big boss du slip français, qui était en direct sur Instagram pour expliquer la démarche et échanger en direct avec les consommateurs, un live du boss de la marque qui revient aux fondamentaux, hein, le direct avec ses consos, la réponse au direct. Ils sont quand même, franchement, et on ne dit pas ça parce qu'on les aime bien, quoique peut-être un peu, mais ils sont quand même forts. Hein, ils ont vraiment toujours ils ont une longueur d'avance aussi sur la manière de travailler leur marque, le slip français. Et là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils avaient prévu de faire ce live-là avant qu'il y ait polémique autour de ce rebranding, mais que du coup c'était vraiment une bonne occasion d'échanger en direct et d'expliquer à nouveau bien les choix, hein. Expliquer que le slip français c'est une histoire de risque et d'innovation, c'est ce qu'il a dit hier Guillaume Gibault, qu'il s'agissait de reprendre une longueur d'avance et puis aussi de montrer comment ce logo il allait vivre sur les produits. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est de dire
oui.
Ce rebranding, c'est pas qu'un rebranding de logo, d'identité, de charte graphique, c'est aussi globalement une refonte un peu globale de la gamme. Et ça, c'est important de le montrer en vrai.
Bien sûr, il y a ça qui change beaucoup et on va le voir après aussi dans des marques dont j'ai envie de vous parler, qui ont eu des changements de logo. C'est que nous, forcément, on pense tout de suite comment il va vivre en social media, comment il va vivre sur les réseaux sociaux. Mais quand on est une marque comme le slip français, un logo, avant tout, c'est aussi comment il va vivre sur un textile, sur du vêtement et comment on va pouvoir le mettre en avant. Et ça, forcément, il y a une histoire aussi après de tendance, de mode qu'il y a derrière. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je trouve que pour moi, c'est un logo qui est beaucoup plus mature, le logo du slip français aujourd'hui, que celui qu'ils avaient auparavant. Je pense aussi que là-dessus, il y a tout un travail qui a été fait, tout simplement pourquoi ? Parce que les clients du slip français ont vieilli. Les clients du slip français qui achetaient du slip français quand ils avaient 15 à 20 ans, 25 ans, aujourd'hui, ils sont plus vieux. Ça fait 10 ans que la marque, elle existe. Et aujourd'hui, les clients du slip français, ils ont peut-être moins envie d'avoir une grosse cocarde bleu, blanc, rouge, le slip français made in France sur leurs vêtements. Ils ont peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus discret, d'un petit peu plus chic, je dirais même. Et là, on voit aussi que le slip français, c'est pas que des sous-vêtements. Le slip français, ils ont aussi envie de prendre un virage. On veut que vous puissiez porter du slip français à la maison et à l'extérieur aussi. Et pour l'instant, avec le logo tel qu'il était aujourd'hui, on sentait que c'était peut-être un peu compliqué d'arriver à se développer comme ça. On va essayer de le développer un peu plus à l'extérieur. Et dernier point que j'aborderai sur ce changement de logo pour le slip français et qu'on va voir aussi avec d'autres marques dont je vais vous parler, c'est le côté international. Moi, je pense que le slip français, aujourd'hui, c'est une marque qui est très, très marquée France et vendue en France. Je pense qu'il y a aussi une histoire de rebranding parce que, là c'est vraiment, je fais des projections moi-même. Je n'ai pas parlé du tout, moi, avec Guillaume Gibault ni avec personne du slip français. Mais je pense qu'il y a peut-être une velléité de se développer un peu à l'international et d'avoir du coup un logo qui passe.
Alors moi hier dans la discussion que j'ai eue avec eux, non, ça c'est pas un des sujets. Vraiment, il s'agit pour eux davantage d'offrir un nouvel élan après 10 ans de la marque. Aussi ce que m'a rappelé l'équipe social media du slip français, c'est de dire initialement l'image, la tonalité de prise de parole de la marque, y compris sur les réseaux sociaux, elle était très second degré, très dans le drôle, rebondir, faire des c'était vraiment les experts du newsjacking. Ils faisaient beaucoup de publications un peu drôles comme ça. On se souvient, le changement c'est maintenant. Ils avaient rebondi sur les campagnes présidentielles, etc. Et la marque, effectivement, comme tu l'as dit, elle a pris en maturité, y compris d'ailleurs son patron, hein, il a 10 ans de plus maintenant. Et donc, le logo, il vient accompagner, on va dire, cette démarche un peu plus mature. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que c'est pas la première fois, loin de là, qu'un rebranding de marque suscite la passion. On en a un certain nombre d'exemples. Et moi, je vais commencer avec, en 2010, ce rebranding qui avait vraiment déchaîner les foudres des réseaux sociaux. Gap, la marque de prêt-à-porter, qui en 2010 dépense 10 millions de dollars pour rebrander sa marque. 10 millions et des mois de travail pour finalement un bad buzz monumental. Je ne sais pas si tu te souviens, Adjan, un cas d'école à l'époque. Ouais. L'accueil d'ailleurs est tellement salé sur les réseaux sociaux et bien que la marque finit par faire machine arrière et elle revient littéralement à son logo historique en disant « Ok, oubliez tout, finalement, les 10 millions, ils partent à la benne. On reste là-dessus. Là, on voit comment parfois c'est difficile de faire bouger sa marque.
Non, effectivement, ça peut être très très compliqué. Après, il faut pas perdre espoir non plus. Moi, je pense que il y a des marques qui sont historiques. Et moi, je voulais vous parler d'ailleurs d'une marque historique qui est beaucoup plus, qui a une histoire beaucoup plus longue que le slip français et à voir avec Gap. Mais je pense aussi, c'est Peugeot. Peugeot, c'est une marque qui pour ses 210 ans, donc c'est un peu plus, un tout petit peu plus, a décidé de lancer officiellement une nouvelle identité de marque, hein, donc nouveau logo. Là aussi, pareil, hein, il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est le logo qu'on retrouve sur les voitures, à l'intérieur des voitures. C'est le logo après avec lequel on va communiquer en publicité télé. C'est des budgets énormes. Donc là-dessus, il y a vraiment un gros travail. Et en plus, la différence avec toutes les marques dont on vient de parler, c'est que Peugeot, il y a vraiment une identité visuelle très forte avec un symbole, le lion. C'est quand même déjà un symbole qui représente la marque en tant que logo. Donc, c'est très compliqué à changer. Et là, ils ont du coup, cette année, en fin d'année 2021, ils ont retravaillé ce logo-là pour revenir à quelque chose de plus ancien. Et maintenant, on n'a plus un lion entier sur ses pattes. On a juste le profil d'un lion qui est dans un petit, une espèce de triangle. Donc, ils ont retravaillé, redessiné ce logo pour qu'il soit un peu plus moderne. Moi, je trouve que c'est assez bien fait, même sur les réseaux sociaux. Ils l'ont accompagné de vidéos en story qu'ils ont diffusées, qu'ils ont gardées aussi en highlight, où justement ils présentent les nouvelles voitures qui vont sortir avec ce logo-là. Et puis ils présentent l'histoire de la marque, toutes ces années d'histoire, avec l'évolution du logo sur toutes ces années d'histoire. Donc on voit aussi dans cette vidéo que en tant d'années d'existence, ils ont énormément changé de logo et au final, ça les a pas empêchés de construire justement sur le long terme une base de fans, de clients, etc. très très forte. Et puis en post Insta, ils ont fait des jolies petites créas aussi avec le logo en filigrane sur des visages d'êtres humains, de profils qui collent avec le lion, avec cette envie de parler de l'esprit justement de Peugeot. J'ai trouvé que c'était assez bien amené. Oui, c'est pas un rebranding complet parce qu'on garde le symbole du lion, hein, quand même chez Peugeot, mais on voit que sur des marques beaucoup plus anciennes, c'est pas la fin du monde de changer de logo et au contraire, ça peut parfois aussi permettre d'accompagner des renouveaux.
Mais là aussi, ça a suscité des discussions. Alors peut-être pas autant que ce rebranding en 2016, un rebranding qui nous a tous touchés, impactés directement. Instagram qui se lance dans une refonte de son logo et fait disparaître ce logo historique, hein, en 3D. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, ce logo qui ressemble à un petit Polaroid qui était en logo 3D, voilà, effet 3D, ça se faisait bien à l'époque. Et puis ils sont arrivés avec un nouveau rebranding totalement vectoriel avec cette fameuse petite logique de dégradé qui est le logo qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, et à l'époque, tout le monde a été choqué, mais gravement, par ce nouveau logo. Ça a vraiment discuté très massivement sur les plateformes sociales, certains parlant de la fin d'une ère, certains parlant de la fin de cette application, certains ont même désinstallé l'application. Enfin, vraiment, ça a été assez massivement très critiqué. Tout le monde parlait d'un changement de marque qui allait plus loin que juste un changement de logo. Et puis, finalement, cette controverse, eh bien, on se rend compte qu'elle a aussi contribué au succès de l'application Instagram. Parce que quand on parle beaucoup comme ça, on attire aussi l'attention. On revient à ce sujet d'il y a quelques temps sur Bad Buzz is Buzz. Eh bien oui, là, typiquement, dans le cas d'Instagram, ça a été bénéfique. Hein. Finalement, ça a offert un coup de focus additionnel sur cette application où finalement, qu'il n'y avait pas encore le taux de pénétration qu'elle a aujourd'hui, et ça a permis à un certain nombre de gens de se dire on parle beaucoup de ce truc là, je vais aller jeter un coup d'œil. Comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, qui se souvient encore de l'ancien logo d'Instagram? Oui. Tout ça est passé complètement oublié, et on a tous adopté globalement, hein, ce nouveau logo.
Dans le même style, on a eu le changement de logo de YouTube, hein, qui avait aussi, si on se souvient, YouTube, tout au début, c'est une espèce de petite télévision cathodique, le logo. Au final, aujourd'hui, plus personne se souvient de ce logo-là. On pense juste au bouton play sur fond rouge.
Ouais, totalement. Alors, pourquoi c'est si compliqué un rebranding? Pourquoi à chaque fois qu'une grosse marque, une love brand, se lance dans une démarche de refonte de son identité visuelle, pourquoi c'est à chaque fois compliqué. Alors, eh bien, peut-être, si je peux me permettre une idée, une piste, c'est qu'une love brand, elle appartient finalement à ses communautés. Une marque et surtout une love brand, ça se co-construit. Ce sont les communautés finalement qui font la marque. Et dans le cas du slip français, je trouve que l'histoire, elle est folle. On a là aussi un cas d'école à nouveau. Hein, c'est que depuis 10 ans, cette marque, le slip français, elle joue la carte des communautés pour véhiculer évidemment son bouche à oreille et puis aussi appuyer ses prises de décision stratégiques, la relocalisation en France, le développement de certains produits, etc. Ils ont vraiment joué cette carte de la co-construction et là, ils se retrouvent face à une situation où ils ont un petit peu rompu le pacte, on va dire, hein, parce qu'il arrive qu'une marque, elle doit faire des choix stratégiques, des choix courageux seule dans son coin. Bah oui, c'est aussi ça, on peut être accompagné de communautés, mais parfois on doit prendre des décisions et nos communautés, elles n'ont pas toujours tous les tenants et aboutissants de là où on souhaite amener la marque. Et c'est finalement c'est finalement, je trouve, un peu le point commun de tous ces exemples de buzz, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé d'avoir une décision courageuse face à ses communautés et a mis en place des processus pour leur expliquer pourquoi ils prenaient cette décision, quitte à parfois se faire un peu chahuter.
Ouais, alors il y a aussi peut-être d'autres pistes qui sont exploitables quand on est une love brand et qu'on a des communautés. Et je pense que là, il y a l'exemple parfait qui est dans le football, puisque ce sont des clubs qui sont devenus des marques justement et qui ont des communautés très 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 fortes et engagées derrière eux, des communautés qui se sentent elles-mêmes faire partie du club, hein, forcément de la marque en question. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a de nombreux clubs qui ont changé de logo, de décusson. Il y a le Paris Saint-Germain qui avait modifié légèrement son écusson après l'arrivée des Qataris la propriété du club. Et puis derrière, on a eu des gros clubs comme la Juventus à Turin, ou alors les Girondins de Bordeaux, l'Inter de Milan, qui ont changé tout ça. Et pour eux, à chaque fois, tous ces clubs, ils ont modifié leur identité visuelle, parce que notamment, ils ont commencé à penser le fait qu'ils devenaient une marque globale et plus seulement une marque locale. Un club de foot, forcément, à la base, c'est une ville, mais ils ont compris qu'ils pouvaient se développer à l'international. L'Inter Milan, explique notamment que eux, ils avaient envie d'avoir un logo qui soit reconnaissable pour les jeunes à l'international. Ils avaient envie de plaire à la génération Z et qu'avec l'écusson qu'ils avaient auparavant, c'était moins facile. Là, ils ont fait un écusson beaucoup plus moderne. Les changements de logo, par contre, au niveau des supporters, la fan base hardcore, je dirais, les hardcore fans, eux, c'est plus compliqué. On a vu carrément, moi j'ai un cas à te citer qui est le cas du club de Nîmes, qui a voulu changer d'écusson et de logo. Et en fait, les supporters ont tellement mal vécu le changement d'écusson qu'ils ont appelé à boycotter la campagne d'abonnement du club au stade. Donc en fait, tous les fans, les vrais supporters qui prennent leur abonnement à l'année n'ont pas pris leur abonnement. Le club de Nîmes s'est retrouvé tellement en galère face à cette grève qu'ils ont décidé de ne pas changer le logo tout de suite. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après, ils ont fait voter les supporters pour qu'ils choisissent eux-mêmes un nouveau logo. Ce qui fait que ça a, pour le coup, incorporé tous les supporters dans le processus de décision. Ils ont finalement réussi à changer de logo. C'est les supporters qu'on choisit avec leur vote. Et ça a permis d'emballer tout le monde dans cette histoire. Donc, peut-être qu'une des pistes, quand on est une love brand, qu'on a une communauté très forte, peut-être qu'il faut en faire un événement de ce changement de logo. Là, le slip français, c'est un peu arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Peut-être qu'il faut en faire un événement. Peut-être que c'est quelque chose qui se travaille avec 1 an, 2 ans d'avance, où on commence à rendre un travail collaboratif. On en rencontre sur les plateformes sociales pour en parler avec les audiences. Et puis, on fait voter ces audiences pour prendre des choix un peu stratégiques sur peut-être les couleurs. Alors, peut-être que c'est juste à la fin pour choisir le logo. Peut-être qu'il y a plus à faire même dans la construction du logo. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. Quand on est une love brand, il faut faire participer ces audiences.
Ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Effectivement, ça serait quand même la tentation de jouer la carte de la communauté jusqu'au bout. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que le sentiment d'appropriation de la marque par les communautés, il est à double tranchant. C'est à la fois c'est une force puissante pour une marque de disposer de communautés qui incarnent la marque, s'approprient, sont des ambassadeurs de marque. Le slip français en a vraiment bénéficié. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi à double tranchant. C'est aussi, une responsabilité vis-à-vis de ces communautés. Et comme tu dis, quand on prend une décision aussi radicale qu'un changement d'identité visuelle, c'est quasiment, c'est le fanion, on va dire. En tout cas, c'est l'étendard de cette communauté-là auquel tu touches. Donc, comment est-ce que tu peux faire participer la communauté? Il y a un cheminement qui est celui qui a tenté le slip français, qui est celui de faire prendre des décisions dans ton coin, des décisions éclairées, des décisions courageuses, et après de les expliquer, de faire beaucoup de pédagogie. C'est le travail dans lequel est engagé depuis maintenant 3 jours, hein, c'est encore tout frais, les équipes du slip français. C'est un travail fastidieux. Et puis, t'as un autre angle qui est celui de faire contribuer les communautés, d'essayer de, effectivement, comme Nîmes, de les réintégrer dans le choix, dans certains éléments de choix, de façon à ce qu'ils s'approprient aussi davantage cette nouvelle identité. Sujet passionnant, je trouve. Hein.
Ah, c'est un sujet extrêmement passionnant, ce rapport justement des marques à leur communauté vis-à-vis d'identité visuelle, à quel point les communautés elles influent à l'intérieur d'une marque. On a déjà fait des épisodes là-dessus, sur notamment en termes de marques textiles, comment il y avait de la collaboration avec les audiences pour créer des nouvelles pièces, pour créer des nouveaux vêtements. Là, c'est un peu pareil. Il y a un juste milieu à trouver, je pense, entre une marque qui veut impulser des nouvelles choses et des audiences qui veulent être impliquées dans la marque parce qu'elles aiment profondément cette marque.
Exactement. Voilà les amis, tout ce qu'on avait à se dire ce matin sur ce nouveau rebranding du slip français.
Alors, évidemment,
on a un big up, hein, Anne. Merci les équipes du slip pour vos éclaircissements sur tout ça. Courage, on espère bientôt que vous serez passés à autre chose et que tout le monde se sera approprié cette nouvelle identité. Mais en tout cas, merci pour le cas d'école. Hein. Encore une fois, le slip français nous livre ici un cas d'école de love brand, de marque passionnelle. Ça, c'est vraiment intéressant. Les amis, si vous voulez continuer et échanger avec nous sur ce sujet, on se retrouve sur toutes les plateformes @supernatif,
sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Si vous avez des remarques, hein, si vous avez des choses à nous dire qu'on aurait oublié sur les changements de logo, une marque particulière qui aurait changé de logo, qui vous a choqué, n'hésitez pas, venez en parler avec nous. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors bien sûr laissez-nous une petite note, un commentaire, ça nous fait plaisir, on lit tous vos commentaires et ça nous donne encore plus de motivation. Et puis tous les matins, hein, on est en direct sur Twitch et sur Spaces sur Twitter, donc si vous avez envie de discuter avec nous, si vous voulez en parler en live, regarder nos épisodes en live, nous voir aussi, n'hésitez pas à venir sur ces plateformes de direct pour nous accompagner tous les matins à 9h.
Allez, merci à vous tous, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle journée et on vous dit à demain. Salut tout le monde, ciao, bye.